Qu'est-ce qui se passe?
Pas de panique, c'est l'heure de l'actu culturel.
Musique, théâtre, cinéma, sortie.
Votre agenda culturel avec Studio Zef.
Bonjour et bienvenue dans Qu'est-ce qui se passe? Une émission où on vous propose des sorties et des animations culturelles locales. Aujourd'hui, une grosse partie de l'émission sera consacrée à BD Boom, avec pour commencer l'interview de Mathilde Landry, qui nous parle du programme du festival ainsi que de différentes expositions. Ensuite, Charles nous parlera de Violette Maurice, une bande dessinée sur l'une des sportives les plus titrées de l'histoire, suivie de Lucie, qui parlera de la santé mentale dans la BD, thématique abordée aujourd'hui à BD Boom. Et pour finir, nous évoquerons d'autres événements culturels qui ont lieu ce week-end et à la semaine prochaine. Dans ce focus sur BD Boom, on est avec Mathilde Landry, médiatrice culturelle à BD Boom.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter assez rapidement ce que c'est BD Boom de façon générale?
BD Boom, c'est un festival de bande dessinée, donc un des plus grands festivals de bande dessinée en France. C'est un festival gratuit aussi, avec qui est assez engagé au niveau social, scolaire, pédagogique, donc on fait pas mal de choses. C'est la 35e édition, donc cette année, le festival existe depuis 35 ans. Donc on accueille tous les ans autour de 210 auteurs. On est à plus de 20 000 visiteurs par an. Et puis, pour cette année, on a aussi des classes inscrites. Donc, on a 130 classes aujourd'hui d'inscrites pour la journée scolaire du vendredi. Donc, on accueille des rencontres d'auteurs, du spectacle vivant, du cinéma, des expositions, voilà, plein de choses.
Sur BD Boom, il est organisé des expositions. Je vais parler un peu de celle-ci. La première, qui est dans la Halograin, juste en entrant, s'appelle Voyage en Égypte, donc Gaspard et la malédiction du prince fantôme, sur une BD d'Isabelle Détang. Donc l'histoire, c'est Gaspard, 11 ans, passe une partie de son temps au musée du Louvre et travaille son oncle. Gaspard apprécie tout particulièrement la section égyptienne du musée avec ses sarcophages. Une exposition est consacrée à cette BD à l'entrée de la Halograin. Donc pourquoi avoir consacré cet espace à cette bande dessinée-là?
Alors les habitués du festival connaissent bien cette expo-là parce que c'est l'expo qui est en arrivant vraiment dans la Halograin. Et puis tous les ans, on a un partenariat en fait avec le CDSAE, donc c'est le Centre départemental de soins et d'accompagnement et d'éducation. Donc il y a un IME, un ITEP et différents services. Et donc avec des jeunes qui sont en situation de handicap pour certains... on travaille à la scénographie de cette expo-là, donc on a souvent une expo assez décorée avec tout un univers. Et donc cette année, tous les ans, on met en avant sur les expositions des nouveautés, des sorties, des choses récentes. Donc l'album Gaspard et la malédiction du prince fantôme, qui est un album d'Isabelle Détang. C'est une nouveauté avec les éditions Delcourt et les éditions du Louvre qui portent sur l'Égypte ancienne et les collections du Louvre en Égypte ancienne. Donc l'exposition, elle sera scénographiée dans cet univers-là, avec en plus des planches originales d'Isabelle qui sont en couleur directe. Donc c'est des grandes planches assez impressionnantes à regarder. Donc c'était chouette de la mettre dans l'entrée aussi de la Halograin.
Et quel est le lien entre la bande dessinée jeunesse et l'histoire, donc qu'on retrouve justement avec cette BD, là avec le Louvre?
C'est vrai qu'Isabelle Détang, c'est une autrice qui a pas mal travaillé sur l'Égypte ancienne, qui est assez passionnée d'histoire, donc qui a fait sur les terres d'Horus, d'autres ouvrages comme ça un peu historiques, plutôt jeunesse, et puis d'autres sujets, d'autres époques. La bande dessinée, de toute façon, elle s'est appropriée un petit peu tous les domaines. C'est vrai que on l'utilise souvent comme support un peu pédagogique. Hein. On n'a pas attendu très longtemps avant de comprendre que le visuel faisait un outil idéal, quoi, pour la pédagogie. Donc il y a peut-être une génération qui a connu l'histoire de France en bande dessinée, des Larousse, etc. Donc il y a eu des BD comme ça pédagogiques. Et puis après, il y a eu toute une vague aussi d'une génération d'auteurs de BD historiques avec la revue Vécu, qui était une revue dans les années 70, avec Julliard et d'autres auteurs. Donc la bande dessinée qui traite de l'histoire, c'est quelque chose d'assez voilà, ancien. Et puis, il y a beaucoup de bandes dessinées récentes qui sont très bien faites pour les enfants. Je pense l'année dernière, on avait une exposition autour de la BD Irena, qui parlait notamment de, voilà, du ghetto de Varsovie. Et c'est une bande dessinée jeunesse pour les enfants, sur un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder. Et elle est extrêmement bien faite. Enfin, j'encourage tout le monde à la lire. Comme l'exposition Gaspard et la malédiction du prince fantôme permet d'approcher un petit peu les collections du Louvre pour les enfants, c'est l'idéal, quoi.
Bien. On va parler d'une deuxième exposition, donc, qui est à l'étage de la Logrin, à droite même. Donc c'est une exposition sur la BD Le cœur des Amazones de Christian Rossi et Géraldine Bindi. Cette BD parle donc des Amazones, ce groupe de femmes combattantes durant la guerre de Troie, repoussant les hommes. Mais la jeune reine Penthesilée défie Achille, et cette rencontre remet en cause leur haine des hommes et tous leurs principes de fonctionnement. Y a-t-il une volonté particulière avec cet ouvrage sur le rôle de la femme dans la société ?
Alors c'est vrai que ça rappelle les thématiques actuelles. Il y a des répliques de certaines Amazones qu'on pourrait transposer à l'époque MeToo, etc. Donc effectivement, ces thématiques-là, on y pense en lisant la bande dessinée. Après, le mythe des Amazones, c'est un mythe très ancien. Géraldine Bindi, en fait, elle est universitaire, elle a fait des études de lettres et elle a étudié l'Iliade et ce mythe des Amazones. Donc il y a vraiment une adaptation de ce mythe antique qui a perduré à travers les âges. Alors la culture populaire, elle s'en est emparée un petit peu à travers les péplums, à travers certaines bandes dessinées. Je pense à Epoxy, qui était une bande dessinée de Cuvelier, Jean Van Am, qui est une bande dessinée un petit peu avec un personnage d'Amazon. Et puis il y a eu le personnage de Wonder Woman aussi dans la bande dessinée.
De manière contemporaine, oui. On commence à voir des héroïnes, maintenant c'est adapté au cinéma, mais des films Marvel et DC Comics, qu'on en voit de plus en plus.
À la base, vraiment, le personnage de Wonder Woman est hyper intéressant à étudier.
On voit enfin des héroïnes de bande dessinée.
L'héroïne de bande dessinée, bon, ça date quand même un petit peu, hein, parce que pour parler de Wonder Woman, c'est quand même 1941, la création de Wonder Woman. Et au départ, c'est vraiment une volonté. Alors là, on est très actuel, hein, parce que l'auteur de Wonder Woman, Marston, il avait pour objectif d'émanciper les jeunes filles et de promouvoir le développement, l'égalité des femmes dans toutes les activités humaines. Donc c'était vraiment un féministe avant l'heure.
Et quelle est l'évolution du rôle des femmes à travers l'histoire et à travers la BD ?
Alors, il y a des héroïnes comme ça, de bandes dessinées qui sont assez emblématiques. Alors, il y a Wonder Woman, il y en a d'autres. Par exemple, là, en ce moment, on a sur les escaliers de Denis Papin, on a le visuel de Valérian et Laureline. Alors, Laureline, c'est un personnage de bande dessinée intéressant aussi, parce qu'elle, elle a fait son petit bout de chemin, finalement, et elle a pris de plus en plus d'importance dans les histoires des BD de Christin et Mézières. Et jusqu'à, je crois que c'est en 2007, on a rebaptisé la bande dessinée Valérian et Laureline, alors que au départ, c'était juste Valérian. Donc Laureline a vraiment eu un rôle qui a eu de l'importance. C'était un personnage indépendant, etc. Donc il y a eu des personnages comme ça qui ont été développés par les auteurs de BD et qui sont sortis un petit peu des archétypes de la femme fatale. C'était souvent l'émancipation de la femme, c'était quand même la femme fatale, souvent. Et puis après, y a eu aussi des bandes dessinées ces dernières années sur des biographies d'héroïnes, mais historiques. Donc avec Olympe de Gouges, Joséphine Baker, ça c'est des bandes dessinées de Cattel et Bocquet. Puis on a pu voir aussi le succès des culottés de Pénélope Bagieux. Donc ça c'est aussi des autrices de bandes dessinées qui parlent de femmes un peu héroïnes, mais qui ont existé.
Très bien. Je vais parler d'une autre exposition qui est au cœur des contes de Fabrice Médour, qui se déroule donc dans la bibliothèque Abbé Grégoire, juste à côté. Donc Fabrice Médour est enseignant d'anatomie à éthique à Blois.
Oui. C'est, à côté. Il donne aussi des cours de bande dessinée à la Maison de la BD le jeudi
de l'année. Et c'est donc cette exposition, ça montre des planches de BD qui revisitent des contes, que ce soit des frères Grimm à Lewis Carroll. Donc c'est quand même assez étendu. Pourquoi revisiter justement ces contes maintenant en 2018 ?
Alors c'est vrai qu'on a, on a titré l'exposition Au cœur des contes parce que alors ça fait référence notamment à la collection chez Glénat en fait qui proposait de revisiter comme ça des contes populaires. Et Fabrice Médour avait fait avec Philippe Bonifay au scénario une version revisitée de Blanche-Neige qui était assez sombre d'ailleurs. C'était la collection s'appelle À l'origine des contes et c'était vraiment l'idée d'expliquer ce qu'il y avait derrière ces contes populaires. Donc Fabrice a eu cette première approche d'adaptation des contes. Et puis là, dans l'exposition, on va retrouver aussi des planches, donc des planches de Blanche-Neige, et puis des planches aussi d'ouvrages qui ne sont pas encore parus, qui paraîtront bientôt. Qui s'appelle La fille du quai, qui est un ouvrage qui va paraître chez Glénat. Et puis Après l'enfer, tome 1, donc, qui s'appelle Le jardin d'Alice, et qui va apparaître chez Grand Angle. Et pour ces deux ouvrages-là, on revisite aussi des contes. Donc, dans La fille du quai, en fait, ça fait référence à deux nouvelles, Le cas de Dino Buzzati et aussi Le baron perché d'Italo Calvino. Donc là, on a deux contes modernes. Où on a le merveilleux, des histoires de malédiction, et donc c'est inspiré un petit peu de ces contes-là. Et puis dans Après l'enfer, là on va avoir une adaptation un petit peu noire et sombre de Alice au pays des merveilles, mais transposée au moment de la guerre de sécession aux États-Unis.
Voilà. Et on trouve encore une fois des héroïnes.
Aussi, on a des héroïnes assez fortes.
Et enfin, une dernière exposition qui se déroule donc à la maison de la BD, donc sur la BD Les Petits Diables de Olivier Dutot. Donc Les Petits Diables, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une bande dessinée donc, d'Olivier Dutot montrant avec humour la relation plutôt tumultueuse entre Nina et Tom, donc, qui sont frères et sœurs. C'est pour enfants et c'est extrêmement plaisant à lire. Donc quel est le rapport de la jeunesse avec la BD encore ? En BD de manière générale
Pour cette, justement, pour prendre l'exemple des Petits Diables, alors Les Petits Diables, c'est vraiment une BD. Alors c'est une BD à succès, hein, ça, tous les enfants, je pense, connaissent. Il y a eu 26 tomes chez Soleil. Et en fait, cette BD, c'est intéressant parce qu'elle perpétue une tradition aussi du gag en une planche, qui était en fait un format de publication dans les périodiques. Et les périodiques, c'est un peu l'historique de la bande dessinée. C'est là-dedans que la bande dessinée s'est développée, et notamment les périodiques jeunesse. Donc finalement, l'évolution de la bande dessinée, elle a suivi l'évolution des périodiques, et notamment l'exemple de la revue Pilote, qui était dirigée par Goscinny, dans laquelle on a pu découvrir Astérix et Obélix, Lucky Luke, enfin plein de bandes dessinées mythiques. Et cette BD avait la particularité en fait d'évoluer en même temps que son lectorat, ce qui fait qu'on est allé vers une bande dessinée un petit peu plus adulte avec une génération d'auteurs qui ont exploré d'autres domaines en bande dessinée. Donc la BD jeunesse, finalement, à l'origine, c'est vrai que c'est un peu les fondements de la bande dessinée. Aujourd'hui, la bande dessinée, c'est comme le cinéma, comme la littérature, ça explore tous les domaines pour tous les publics. Mais c'est vrai que traditionnellement, on a cet attachement avec la BD jeunesse. Et puis, il y a quand même une majorité de lecteurs, de jeunes lecteurs, qu'on accueille sur le festival. Alors, notre mission BD Boom, ça va être aussi de former ces jeunes lecteurs et de leur faire découvrir parfois des nouvelles bandes dessinées, de leur faire découvrir toute la diversité. Et puis, de leur montrer aussi les coulisses. Donc, leur faire rencontrer des auteurs qui découvrent comment est-ce qu'on crée une bande dessinée. Et donc, ça fait partie des choses qu'on fait, des ateliers qu'on mène pendant la journée du vendredi.
Très bien. Et une question qui se pose plus ou moins actuellement, c'est le lien ou la concurrence entre la BD et maintenant l'ère numérique, que ça soit, on est de plus en plus sur nos écrans. Donc,
mais c'est super pour la bande dessinée, parce que la bande dessinée, c'est un art visuel. Donc finalement, la bande dessinée, la concurrence, elle n'est pas là. La bande dessinée, elle s'est emparée complètement de ces supports-là. Et il y a de la bande dessinée numérique. Donc, c'est vrai qu'il existe plein de formes assez riches de BD en numérique, parce que justement, c'est un support visuel. Il n'y a pas vraiment de marché officiel de bande dessinée numérique comme il peut y avoir des éditeurs papier. Et pour le moment, en tout cas, les auteurs de bande dessinée qui souhaitent vivre de leur métier vont de toute façon se tourner vers l'édition papier. Mais il y a vraiment des choses intéressantes et il y a beaucoup d'auteurs qui sont passés, notamment par la génération des blogs BD hein, dans les années 2005. Où il y avait des chroniques comme ça de bandes dessinées sur Internet. Et puis, il y a des formes aussi de BD numériques. Je pense à Falaina de Mariette Arène, qui était une BD interactive qu'on pouvait télécharger gratuitement et installer sur une tablette et qui se lit avec du son. Donc ça, c'est vraiment des formes nouvelles aussi de bandes dessinées qui sont intéressantes à explorer. Et puis, je parlais des auteurs. Cette année, on a aussi une particularité, une nouveauté au festival. C'est-à-dire que parmi nos prix, on a une bourse tremplin Caisse d'épargne, qui est une bourse pour justement les auteurs qui n'ont pas publié en version papier ou un seul ouvrage à compte d'éditeur. Et en fait, on se place un peu dans le creux. C'est-à-dire que toutes les bourses ou toutes les résidences commencent à partir du moment où on a édité un album. Et on voit qu'il y a des jeunes auteurs qui font des choses très très intéressantes, très innovantes, et notamment en BD numérique. Et donc on voulait aussi valoriser ça. Donc on a monté, c'est pour la première année cette année, donc on verra comment ça se développera dans les années suivantes. Mais on voulait voilà, donner un petit coup de pouce aussi aux jeunes auteurs qui sont sur des supports différents.
Bah merci bien, merci d'être venu. Donc BD Boom, c'est aujourd'hui, demain et après-demain.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et est-ce que vous avez un mot pour finir ?
Eh ben, j'espère que vous allez passer un bon festival. En tout cas, nous, on est là pour vous accueillir avec le sourire et voilà.
Merci bien.
Qu'est-ce qui se passe ?
Pas de panique, c'est l'heure de l'actu culturel.
Musique, théâtre, cinéma, sortie.
Votre agenda culturel avec Studio Zef.
D'écouter September de Feverkin et je me tourne vers Lucie qui va nous parler de santé mentale.
Alors oui, parce qu'aujourd'hui, toute la journée au conseil départemental, il y a une journée qui s'intitule « Ça va pas la tête, la santé mentale dans la bande dessinée ». Et c'est à travers la présentation d'auteurs, d'autrices, de dessinateurs et d'une réalisatrice que le thème de la santé mentale sera abordé. Donc ça a commencé dès 10h ce matin, à travers une présentation de Patrice Gentilhomme, qui est venue parler de la représentation de la maladie mentale dans la bande dessinée. Puis il a laissé la place à la projection du film « Au jour le jour, à la nuit » de Anaëlle Godard, qui est un film documentaire qui a été réalisé en 2016. Et c'est un documentaire qui a été tourné à la clinique de psychothérapie institutionnelle de la Borde, qui a été fondée par Jean Houry. Et ce documentaire, il montre le quotidien des patients, des soignants, et même de la clinique de façon assez poétique. On peut y voir les différentes activités qui y sont pratiquées, comme l'équitation ou le théâtre. Et certains patients sont interviewés, ainsi que des moniteurs et des soignants. On y voit Jean Houry parler de la psychothérapie institutionnelle en revendiquant l'importance de la douceur dans le soin, qu'il oppose à la violence que l'on peut trouver dans des hôpitaux psychiatriques plus traditionnels. Pour lui, un sourire, un clin d'œil, ça ne coûte rien et ça peut faire une grosse différence. À 14h cet après-midi, on retrouvera l'auteur Aurélien Ducoudray, accompagné du dessinateur Jeff Pourquier, tous les deux auteurs de la bande dessinée La Troisième Population, en partenariat avec BD Boom. Donc ces deux auteurs ont été en immersion au sein de la Chaînée, qui est aussi une autre clinique de psychothérapie institutionnelle. Et encore une fois, ils vont raconter leur quotidien au sein de la Chaînée. Et c'est avec humour, sensibilité et bienveillance qu'ils vont témoigner de ce quotidien aux côtés des malades, qui constituent la première population, mais aussi aux côtés des soignants et des moniteurs, qui eux sont la seconde population. En ce qui concerne la troisième population, c'est donc le titre de la bande dessinée, et il s'agit des gens extérieurs qui viennent à la Chaînée pour apporter quelque chose, et ici les deux BDistes comme ils sont appelés là-bas. Et c'est vraiment un regard touchant et surtout très humain qui est posé sur les malades. Et comme le dit Denise Robillard dans la préface, cette bande dessinée nous fait rencontrer l'humanité. Donc au fil des pages, on s'immerge dans cette clinique peu traditionnelle où toutes les décisions elles sont prises en commun, malades et soignants compris, et où chaque personne participe à la vie quotidienne. Donc on peut voir dans la BD que les deux BDistes vont eux aussi participer. Ils vont notamment faire la plonge à un moment. Donc c'est une bande dessinée qui est majoritairement monochrome, en noir et blanc, et il y a quelques explosions de couleurs qui vont venir dépeindre la folie. On y rencontre Claude Jean Girard, donc le fondateur de la Chaînée, qui a cette phrase pleine d'humanité.
La psychose, ça a d'abord été considéré comme un charabia, mais nous on sentait qu'il y avait quelque chose à entendre, à comprendre, à construire avec ça, mais en évitant bien sûr les malentendus. C'est une porte qui s'ouvrait à ce moment-là.
Donc on ne peut que conseiller de la lire si on veut s'imprégner de cette ambiance... de ce lieu atypique, et je trouve qu'elle permet de dramatiser un petit peu la folie et de lui enlever ce côté un peu glauque qu'on peut lui trouver par moment. Et à 14h30, ce sera donc un entretien croisé entre Anaëlle Godard, la réalisatrice du film Au jour le jour et à la nuit, et Aurélien Ducoudray et Jeff Pourquier, qui vont tous les trois parler de la réalisation d'un documentaire sur la psychothérapie institutionnelle via deux supports différents, donc le cinéma ou la bande dessinée. Et la journée se termine à 15h30 avec une rencontre avec Navi, autrice de Moi en double, en collaboration avec l'illustratrice Audrey Lenné. Et dans ce roman graphique, Navi raconte son vécu de femme obèse, pour qui, comme elle le dit, la nourriture est devenue une sorte de drogue légale. Elle parle de son hyperphagie et de ce double en poids qui la suit partout. C'est un combat contre ce double qui va s'engager et qu'elle finira par tuer en perdant plus de 50 kilos. Mais je cite « Comment tuer ce double sans se tuer aussi ?» Pour accompagner ce témoignage, on trouve des illustrations d'Audrey Lenné en noir et blanc, avec quelques pointes de rouge qui viennent justement illustrer ce double et aussi mettre en relief les émotions et la douleur. Et une question se pose dans la bande dessinée, c'est comment dessine-t-on la douleur ? Donc c'est à voir dans les illustrations. Et pour finir, je dirais que ce roman s'adresse à tous, car comme l'écrit Navi...
Le poids en trop concerne tout le monde, qu'il soit sur le ventre ou dans le cœur. Merci beaucoup Lucie, et on précisera d'ailleurs que toutes ces BD sont à BD Boom, tout comme celle dont va nous parler Charles, Violette Maurice.
Et oui, donc merci Augustin, merci Lucie. Moi, je voulais donc en effet vous parler d'une bande dessinée qui vient de sortir, qui est sortie le mois dernier aux éditions Futuropolis, qui est une très très bonne maison d'édition. En général, quand ils sortent quelque chose, ça vaut le coup d'œil. Donc là, c'est sur un scénario de Bertrand Gallic et Chris, qui sera présent donc ce week-end à BD Boom, et sur un dessin de Ravi Rey. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est une bande dessinée historique, et donc à l'origine, il y a un dossier historique d'une historienne qui s'appelle Marie-Jo Bonnet. Donc voilà, c'est une bande dessinée qui mélange la réalité historique de la Seconde Guerre mondiale et de l'avant-guerre, et d'une part de fiction qu'ont ajouté les scénaristes. Donc là, le premier tome qui vient de sortir s'appelle donc Violette Morris, Abattre par tous les moyens, première comparution. Alors, Violette Morris, on peut déjà la présenter, c'est une sportive française, championne toute catégorie, donc elle a fait de la boxe, de la natation, du football, de l'athlétisme, et sa grande passion, sa grande spécialité, c'était la course automobile. Entre 1920 et les années 30, elle a gagné une vingtaine de titres nationaux et plus de 50 récompenses nationales et internationales. Ce qu'il faut voir, c'est donc vraiment la Morris, comme on l'appelait à l'époque, c'est une pionnière multisport. Et surtout, bon, elle se battait à la fois contre le système sportif qui était très très misogyne, puisque de la même façon qu'elle boxait contre des hommes, et elle se battait aussi un peu contre elle-même par rapport à son corps. Donc c'est intéressant ce que tu dis par rapport. Elle avait un rapport au corps assez intéressant aussi. Pour elle, ce qu'un homme fait, Violette Morris peut le faire, et même mieux. Voilà, donc elle avait vraiment horreur de la défaite. Alors, en plus, c'est une femme qui a une conduite sociale hors norme, puisqu'elle est homosexuelle, revendiquée. C'est une garçonne, et c'est une mondaine, puisqu'elle était amie avec Jean Cocteau, Jean Marais ou Joséphine Baker. Alors là où la BD est intéressante, c'est qu'elle vient aussi explorer une part d'ombre de ce personnage qui vient un petit peu occulter la légende sportive, puisque on se doute qu'elle s'est engagée fortement aux côtés de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale et du régime de Vichy, puisque même aujourd'hui sa légende prétend qu'elle aurait été engagée aux côtés de la Gestapo. Et qu'elle aurait torturé des résistants, bon, ce qui n'est pas totalement prouvé scientifiquement. Donc voilà, donc Violette Morris, donc c'est vraiment un récit qui mélange la réalité et la fiction, dans un but aussi d'interroger l'histoire et la façon dont on l'écrit. Voilà, le récit complet se fera en 4 tomes, et donc là, le tome 1 vient de sortir récemment aux éditions Futuropolis. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Augustin ?
Bah super, merci Charles. Donc après toutes ces infos sur BD Boom, on va quand même vous parler de ce qui se passe d'autre dans le département dans les jours à venir. Donc cette semaine sur les planches...
Vilain, un spectacle de la compagnie Théâtre Accru. Ce spectacle pour enfants est inspiré du conte d'Andersen, Le vilain petit canard. Un spectacle en famille à partir de 9 ans et c'est au Minotaure le 28 novembre à 19h. Mais aussi...
Terrasser le dragon pour abolir le patriarcat. Une conférence gesticulée de Lucie Nusit sur son parcours de femme face au monde patriarcal, de sa prise de conscience à son émancipation et son militantisme. Une conférence qui sera précédée d'un atelier autour du tabou de la sexualité dans la famille. Une conférence pour se déconstruire le vendredi 30 novembre, à l'Alep à 19h. Cinéma maintenant.
Dans la continuité de la fête de la récup, retrouvée ce mercredi 28 novembre à la bibliothèque Abbé Grégoire, la projection du film documentaire Racing to Zero. Ce documentaire montre l'initiative de la ville de San Francisco de devenir la première ville zéro déchet du monde d'ici 2020. Dans un autre style...
Le cycle thriller paranoïaque au Lobis. De grands films américains qui vont vous plonger dans des ambiances un peu poisseuses, novatrices, rock'n'roll, bref, paranoïaques. Premièrement, Casino de Martin Scorsese le 28 novembre. Ensuite, The Intruders de Roger Corman le 5 décembre pour une première en France sur grand écran. Et enfin, All the President's Men d'Alan Pakula pour la semaine du 12 décembre. À l'affiche aussi.
Je veux apprendre la France, film de Daniel Bouis sur un centre social du 18e arrondissement de Paris où des jeunes migrants arrivant en France aspirent à vivre pleinement leur jeunesse dans un pays accueillant. Et c'est le 24 novembre à 15h à la médiathèque. Sur le même thème.
L'exposition « Tous migrants au lycée d'Essaigne », une exposition réalisée par Cartooning for Peace, un réseau international de dessinateurs de presse engagés qui combattent avec humour pour le respect des cultures et des libertés. L'exposition commence le 26 novembre. Et pour sortir en famille,
Let's Folk, des musiques à partager et des danses à vivre en famille. À partir de danses folkloriques et de musique traditionnelle anglo-saxonne, un spectacle pour tous et auquel on peut participer. À partir de 7 ans à la Halle aux Grains, le mercredi 28 novembre à 20h30. Si vous voulez participer à la scène finale du spectacle, rendez-vous la veille avec les danseurs. De la danse, on passe à la musique et au concert.
Avec le Conservatoire de musique de Blois qui propose le 1er décembre à l'église de Villerbon un concert qui s'appelle la Misa Tango. C'est un concert qui mêle musique sud-américaine et rythme latin pour un mélange éclectique. On entendra un orchestre, du piano, un chœur et un bandoneon.
Et on finit avec une artiste locale, Camille Esteban, qui a sorti son premier EP il y a peu, Sur mon chemin. Elle se produira à la Maison de Bégon ce soir à 20h30. On vous laisse avec un de ses morceaux, Lino, et on vous donne rendez-vous le 3 décembre pour un nouveau Qu'est-ce qui se passe ? Vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur studiosf.fr avec des infos complémentaires. Camille Esteban, Lino.
Petit Lino est un minot de la rue, un petit garçon qui passe inaperçu. Et pourtant, il connaît pas la vie, il connaît pas l'amour, il connaît juste ce qu'on lui raconte de temps en temps. Mais Lino essaie de grandir sans se poser de questions. Il ne sait pas quoi faire plus tard, il a d'autres occupations. Il tape le ballon, s'évade au foot, même si ses parents lui disent qu'ils n'en ont rien à foutre. Lui, il y trouve un plaisir, même s'il n'y a pas de forme. Et peu importe dans le fond, pourquoi rentrer dans des normes. Lino se prend des claques le soir quand il rentre tard. Son père ne comprend pas que Lino s'évade la nuit dans le noir. Il a besoin d'amour, mais personne lui en offre. Il repense à sa journée, à la méchanceté de ceux qui se moquent. Il est différent, mais garde les pieds sur terre. En fait, il a un rêve, celui d'écrire des textes. Alors il s'installe dans la cour, écrit ce qui lui passe par la tête, des poésies, des phrases courtes, et parler de ce qu'il aime. Il se fiche de ce qu'on lui enseigne, il veut découvrir le monde comme il le voit par la fenêtre. Où sont passés ses repères, ses rêves s'en vont en vont dans le ciel. Lino voit les feuilles des arbres bouger, il les trouve vives, même quand il les voit tomber. Il se demande d'où vient la pluie, comme les larmes sur son visage mouillé. Mouillé par la tristesse, Lino s'évade dans des textes brouillés. Il n'a plus rien à dire à part parler de ses problèmes. Il se répète qu'il n'aura pas d'avenir, mais croit en ses poèmes. Il ne regarde pas la télé, parce qu'il n'en a pas comme des amis d'ailleurs. Il n'en parle pas, Lino, c'est un garçon qui grandit plus vite que les autres. Il a un talent littéraire et voyage sans parcourir le monde. Il ne fait pas de faute, il construit sa vie quand autour de lui tout s'effondre. Son monde à lui, c'est pas les crises d'ado, les exercices d'ado, mais juste les livres. Et dans son lit le soir, il se fait des histoires pendant que son père boit des litres. Seul dans le noir, rattaché à ses poèmes, il trace un sourire sur ses lèvres et cherche des repères en voyant ses rêves. Seul dans le noir, attaché à ses poèmes, il trace un sourire sur ses lèvres et cherche des repères en voyant ses rêves. Où sont passés ses repères? Ses rêves s'en vont au loin dans le ciel.